Jean-Philippe Vidal, vous mettez en scène ce texte d'Horowitz. John a disparu en Avignon jusqu'au 26 juillet, pardonnez-moi. Quels sont les éléments, tout d'abord, qui vous ont attiré dans ce texte que vous avez découvert conjointement avec Trois semaines après le paradis, qui est également monté ici?
Ouais, ce qui m'a attiré, moi, c'était de m'atteler au théâtre américain, ce que je n'ai jamais fait encore. C'était important pour moi, c'était d'essayer de voir comment j'allais, avec des camarades acteurs, faire pour travailler sur le théâtre réaliste américain. Voilà, c'était le point de départ. J'ai trouvé le texte d'Horowitz. Horowitz, il est quand même très connu comme acteur, comme auteur américain. C'est quand même l'auteur le plus joué en France, hein, l'auteur vivant américain le plus joué en France. Voilà, la lecture m'a plu, tout simplement. Je me suis dit qu'avec ces acteurs auxquels je pensais, ça allait être une manière pour nous de défendre ce texte, peut-être comme on n'a pas tout à fait l'habitude. C'est-à-dire, vous savez, si on prend un texte, les textes de Novarina, les textes de Vitrac, les textes de Claudel, la langue est très forte, la langue est quelque chose qui aide l'acteur. Là, c'est pas tout à fait le cas. On est obligé de faire appel à d'autres choses. C'est pas la langue qui nous aide. C'est les états intérieurs, c'est une ligne de conduite assez particulière à tenir. Et c'était un peu la gageure. On s'est dit, nous, on n'a jamais fait ça, on va le tenter.
Alors, pour parler d'un autre auteur français, Michel Vinaver, qui avait écrit 11 septembre 2001, lui, il avait écrit, d'après ce que j'en ai retenu, à Londres, sur la base notamment d'articles de journaux, avec sa technique du collage-montage, enfin, que tout le monde connaît assez bien. Par rapport à ça, il n'était pas un témoin direct. Horowitz, c'est un témoin direct, et en même temps, il me semble qu'il enchasse trois niveaux d'histoire. D'abord, la grande histoire avec cet événement du World Trade Center, cette amputation dont il parle, organique pour les... Ensuite, une histoire mythique avec la référence à Pénélope et à Ithac. Et puis après, une histoire minuscule qui est ce couple qui se déchire. Comment est-ce qu'on articule ça dans un même espace? C'est quand même assez...
Oh, mais vous savez, quand Vinaver, lui, il a vraiment eu, du coup, c'est un point de vue politique, puisqu'il a mis en opposition les discours de Bush et les discours de Ben Laden. Là, on a affaire à un homme qui a vécu l'événement direct. Hein, il le dit dans Trois semaines après le paradis, c'est-à-dire que son enfant, son gamin était à l'école en face du World Trade Center au moment de l'attentat. Donc il a été pris absolument dans l'événement lui-même. C'est un homme qui a écrit, du coup, quelque chose qui, étrangement, d'ailleurs, en toile de fond. Je pense que c'est normal parce que j'ai l'impression qu'il ne peut pas parler de l'événement lui-même. Donc il parle autour, il parle vraiment de la petite histoire. Il a choisi quelque chose qui n'est pas le World Trade Center, qui n'est pas les attentats, il parle pas de ça. Il ne parle que d'un couple, enfin d'une famille totalement traumatisée par un événement. Mais en fait, ça aurait pu être un autre événement que celui-là. J'ai l'impression que lui, il l'a vécu très différemment. Michel Vinaver, évidemment, il a le recul, c'est un Européen, et il en parle d'un autre point de vue. C'est voilà, très différent. Quant à Pénélope, bon, très bien, il n'en développe pas beaucoup plus que ce qui en est dit au début de la pièce. C'est un point de départ. On ne peut pas dire que ce soit un plan qui est vraiment mis en évidence dans le texte.
Alors, au plan scénographique, vous développez notamment une grande baie vitrée, hein, c'est Windows on the World, pour ne pas reprendre le titre du très bon roman de Frédéric Begbédian, je crois, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il en était justement dans ces éléments scénographiques que vous donnez? Parce qu'on est à la fois avec une certaine convention du théâtre naturaliste américain, puis en même temps on est dans un espace très abstrait.
Oui, c'est-à-dire que ce que nous on a essayé de faire, on a voulu être dans... on n'a pas cherché à être très réaliste, en tout cas dans le jeu. Hein. Le jeu, il y a des sentiments, il y a une intériorisation des choses, mais vous noterez qu'il y a une certaine... on a évité, si vous voulez, d'être dans quelque chose du quotidien, en tout cas. Il y a ce qu'on peut appeler une tenue. on n'est pas dans la manière de dire le texte. Il y a quelque chose qui est un peu droit, un peu dit, et qui n'est pas spécialement ressenti absolument. On essaie de faire vibrer les choses qui sont dites, mais on n'essaye pas de les interpréter avec ce qu'on pourrait appeler la méthode de l'acteur studio, voilà, qui est le style de jeu de beaucoup d'Américains. Après, en ce qui concerne la scénographie, moi j'ai voulu absolument faire que justement pour éviter peut-être qu'on tombe dans quelque chose qui nous est difficile à nous Européens au fond. Le théâtre américain est difficile pour nous, hein, parce que c'est quasiment cinématographique. Mmh. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu envie de faire cette espèce de grande baie vitrée comme un grand cyclo. Là, vous en voyez une partie, mais dans le théâtre à l'italienne dans lequel on a créé le spectacle, ça faisait 6 ou 7 mètres de haut et 8 mètres de large, donc ça n'a plus rien à voir avec qu'on a ici, et les trois fils de rubalise. Les trois rubalises, c'est comme ces trois trajectoires qui traversent, qui partent du paradis, du poulailler, et qui vont en fond de scène. C'est trois avions. Pour moi, c'était ça. C'était les trois avions. Alors, les trois avions, il y en a eu que deux au World Trade Center, mais on sait qu'il y en a eu un troisième, à Washington. C'est aussi, la rubalise, c'est quelque chose qui indique l'accident, qui indique les travaux, qui indique le meurtre, etc., etc. La rubalise, c'est ces objets qui sont utilisés par la police ou les pompiers en rouge et blanc, et qui sont jaunes et noirs aux États-Unis. Nous, on a voulu au départ essayer le jaune et noir, mais ça n'allait pas.
Donc, on a... C'était une scène de crime, comme on est un peu dans Les Experts?
Pas une scène de crime, mais disons que, vous voyez, le World Trade Center, c'est quand même un espèce, c'est maintenant pour nous une sorte de le Ground Zero, c'est-à-dire que c'est un trou, quoi. Et autour, on regarde, mais on peut pas rentrer dedans. Maintenant, c'est fini, ça. Donc, c'est comme s'il y avait des grands travaux qui sont là. Donc, j'ai utilisé ça, je me suis dit, c'était bien, comme, il me semblait que c'était très clair. Et en même temps, positionné comme des flèches, c'est-à-dire que c'est imparable, c'est ça cisaille. Et quand on se remémore le World Trade Center, notamment les avions qui ont pénétré dans ces tours, il y avait rien à dire, quoi. C'était comme ça. C'était des flèches qui rentraient dans des monolithes.
Alors justement, le récit du World Trade Center, ce que vous disiez assez bien, c'est-à-dire qu'il le creuse d'une certaine manière, il est toujours à la périphérie de ce récit, et notamment lorsque la mère essaye justement de reprendre plusieurs événements de manière extrêmement narrative, la fille s'y oppose parce qu'il y a le ressassement, il y a eu toutes ces icônes imagées, des tours qui s'effondrent avec Imagine de John Lennon, etc. Est-ce qu'en même temps, justement, ce récit empêché, qu'est-ce que vous en avez fait par rapport à cette mère? Parce qu'elle apparaît aussi assez névrosée dans la pièce, qui est peut-être pas nécessairement le cas à la lecture.
Elle est quand même assez névrosée, c'est-à-dire elle est quand même empêchée, c'est-à-dire qu'elle n'arrive plus à vivre. Mmh. Et sa fille est désespérée dans cette situation. Mmh. Elle en veut presque à son père, d'ailleurs, de voir que cette mère, pour elle ne sait pas la vérité, elle voit que sa mère pleure un homme, une sorte de saint, justement, et la fille sait la vérité, elle sait que son père devait quitter le foyer. Et que maintenant qu'il est mort dans cet événement terrible, on en fait un être intouchable. Donc voilà, cette mère, je pense qu'elle est elle-même dans sa problématique de femme qui ne veut pas. Le mort, c'est le mort, quoi. On peut pas, c'est intouchable. On peut plus rien dire. Les gens sont. Vous savez bien comment, surtout dans un tel événement, quoi. Il y a. Horowitz a dû vous le dire, pour lui c'était le point de départ de sa pièce. D'un seul coup il s'est dit, mais c'est incroyable, chaque jour dans le journal on parlait d'une des victimes, tous les jours dans le journal, Washington Post je crois, ou un grand journal, tous les jours on citait une victime, et à chaque fois il se disait, mais c'est incroyable, on a l'impression que c'est un saint. À chaque fois les gens étaient des gens magnifiques, ils avaient fait que des belles choses dans leur vie. Voilà, c'est un homme comme un autre, il trompait sa femme, il allait voir ailleurs, point.
Alors justement, ce dialogue avec les morts, il rend peut-être possible le fait que une certaine vérité puisse apparaître. Ce dialogue vérité-mensonge, on le retrouve souvent chez Horowitz. Comment vous l'avez ressenti ici, justement? Parce que il y a quelque part toujours ce sentiment qu'ils se prennent pour un super papa dans trois semaines, ou ici, cette mère, de protection. Il faut protéger. Ouais. Il y a un rapport très fort entre générations. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ici? Parce que il semblerait qu'il y ait quand même une, je ne veux pas trop forcer les choses, mais une certaine complicité entre mère-fille.
Oui,
le protéger de la vérité, enfin. Elle dit même à John, je te tuerais si tu lui as dit avant de me l'avoir dit à moi. Je sais pas, et quelque part d'être le premier référent dans la parole qui est transmise, comment vous l'avez vécu, vous? C'est un peu cette comédie des erreurs.
Là, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas, moi j'ai surtout vu je vois des gens qui essayent de se débrouiller avec ce qu'ils vivent, ils se dépatouillent, ils essayent de survivre à un événement terrible, et à la fin on les voit. Pour moi, j'ai fait ça, je les fais parler face publique, et d'une certaine manière, elles se prennent la main comme un pacte, elles signent un pacte, le pacte d'une, voilà, on enterre ce qui doit être enterré, et on le sait, tu le sais, je le sais, on n'en parle plus.
C'est la fameuse phrase, sont les morts enterrés les morts et au coup, le nom des vivants.
Ben oui. Bah oui, je pense, mais...
Et la musique stratosphérique que vous avez... enfin, si j'ose dire, j'entends qu'il y a un côté assez ambient dans cette musique. Ouais. Elle est assez présente, comme d'ailleurs souvent dans les... dans les récits cinématographiques, comme vous l'avez très bien dit, Israel Horovitz a notamment joué avec des acteurs comme, enfin, fait jouer dans ses pièces des acteurs comme Ethan Hawke, Al Pacino et d'autres. Qu'est-ce qu'il en était justement sur ce choix?
Alors, pour le coup, lui, il indiquait des musiques qui n'avaient rien à voir avec ça. Il indiquait quand je lisais les Didascalies, c'était plutôt des musiques très classiques. Donc voilà. Et c'est vrai que j'avais pas envie de ça. J'avais envie qu'on pense à quelque chose d'urbain. Et c'est New York quand même. J'ai eu envie, ouais, je me suis dit, je connais une jeune femme qui est DJ, qui est serbe, qui est installée en France. Sa musique me semblait, je trouve que c'était quelqu'un de très sensible, qui pouvait tout à fait participer à ce genre de travail. Et je lui ai dit, écoute, viens avec nous en répète, essaye de travailler à partir de ce qu'on fait. Laisse-toi guider par ce que tu vois et fais des propositions. Je lui ai donné aussi des pistes, mais ce qui m'intéressait, c'était le côté technologique, quoi. Voilà. Et on est parti sur ça et par moment sur une chose, sur des grandes nappes, à un moment donné, sur la musique, sur la scène du mort, comme on dit, quand le mort revient. Voilà, vous savez, moi, je sais pas, j'ai vu ça comme une chose très simple, au fond, c'était musique urbaine, quoi.
Vous travaillez avec un revenant, justement, presque dernière chose, j'entends, elle le reçoit presque de manière intérieure, c'est-à-dire qu'elle a les yeux fermés, elle est en bordure de scène, c'est un dialogue qui est très simple, peut-être avec des images qu'on connaît aussi, les morts qui sont dans les nuages. Il y avait quand même, disons, la tentation peut-être de l'allégorie, du symbolisme là-dedans. Là, vous l'avez traité de manière extrêmement, je dirais, très épurée.
Oui, très épurée, parce que je me dis aussi, il y a une vision des Américains que nous, on n'a pas, enfin, Horowitz c'est un Américain, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, nous ne sommes pas Américains, on n'a pas du tout, j'imagine pas du tout un auteur français écrivant comme lui, ça me semble absolument impossible, et j'en sais rien, on a traité ça, écoutez, moi je me suis dit que c'était purement un fantasme de la mer. Et que ce fantasme, je veux dire, un fantasme, c'est aussi très concret, des fois, dans nos têtes, non? Quand on imagine une chose, c'est une image extrêmement précise. Je me suis dit que le mort devait être extrêmement concret. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'a traité.
Et puis alors, une chose aussi, c'est que vous m'aviez dit que vous n'aviez pas, ou si je vous ai bien compris, abordé le théâtre anglo-saxon jusqu'à présent. Maintenant, effectivement, vous prenez une des pièces, je dirais, mythiques du prix Nobel de littérature, Harold Pinter, l'anniversaire. Qu'est-ce qui vous a retenu, justement, dans The Birthday Party?
Alors là, déjà, c'est l'auteur, Pinter. Moi, c'est un auteur que j'adore depuis très longtemps, parce que pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé quand j'étais dans les cours d'art dramatique. Quand j'ai fait l'école de Chaillot, bon voilà, c'est un auteur qu'on n'a pas spécialement abordé à Chaillot, mais on en a parlé en tout cas. Et puis c'est quelqu'un de nos jours, je trouve, qui est un peu mis non pas au rancard, mais en tout cas en France, on le monte, mais je trouve de manière un peu un peu réservée, quoi. C'est un peu dans un coin du théâtre, mais c'est pas voilà. Donc c'est l'envie de défendre quelqu'un que je trouve qui a une imagination incroyable et qui j'adore ça, quoi.
Juste dernière chose sur votre mise en scène et votre direction d'acteur. Vous dites dans votre note d'intention que pour les comédiens, c'était pas du tout évident de trouver à la fois le ton, de dessiner la bonne figure, de faire ce parcours vers le personnage, vers cette ambiance. Comment est-ce que vous avez travaillé justement avec eux au niveau des intentions, au niveau peut-être du sous-texte ou je sais pas.
Oui. On a été, en fait, on a un peu utilisé, vous savez, ce qu'on appelle au départ la méthode de l'acteur studio, quoi, le ressenti, les états, les choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, on a voulu épurer. Pour aller vers une tenue de langue, une précision, de ne pas rentrer dans le quotidien, de ne pas banaliser la parole, de ne pas faire trop d'élisions, une tenue du corps, une précision des gestes, une économie de gestes, voilà. Mais un peu comme, si vous voulez, la scéno, on a un canapé, là c'est un canapé très simple parce que la salle est petite, et ce qu'on utilisait au théâtre à l'italienne, le Salman Lazare d'Epernay, c'est là qu'a été créé le spectacle, c'était un long canapé de 7 mètres de long, qui était un peu bizarroïde comme objet. Et ça nous permettait d'avoir des distances entre la mère et la fille qui étaient chacune assises à un angle du canapé. Donc voilà, c'était une manière de travailler presque au départ d'une manière cinématographique. Puis après, de mettre à distance le texte pour pas tomber dans l'anecdote, parce qu'on aurait pu très facilement tomber dans l'anecdote.
Alors, ultime chose, la mémoire, c'est aussi l'oubli, d'une certaine manière, même si ça semble paradoxal comme proposition. Mais ici, la parole, elle naît aussi du silence. Et là, des silences, il y en a beaucoup dans cette pièce. Vous en avez installé beaucoup, même si c'est un texte qui est effectivement très, très dense. Alors, sur ces silences, peut-être la manière dont il rythme les choses, parce qu'effectivement, vous êtes dans l'acteur studio, dans le sens où elle, par exemple, prenons un exemple, mais cette jeune femme, Willa, est en fait asthmatique, je crois, j'ai bien compris. Ouais.
Et là, elle tousse. Ouais. Elle le fait, voilà. Non, mais il y a des choses comme ça qu'on peut indiquer, là, tout. Les pleurs de la mère, elle pleure. Gisèle Tortorello, quand elle joue c'est dur pour elle. Parce que c'est dur, non pas... c'est dur parce qu'elle est sur le fil. Elle sait très bien qu'elle peut pas se lâcher complètement, parce que ça, on se l'est dit. Et en même temps, il faut qu'il y ait cette vibration, quoi. Elle est là, la difficulté. Les silences, pourquoi? Ben, tout simplement parce que, justement, pour éviter les petits silences. Quand je dis petits, c'est pas... Enfin, je veux dire, vous savez, quand on parle, on peut mettre des petits silences un peu partout, comme ça. Et là, on s'est dit, non, on colle les répliques. Il y a pas mal de répliques qui sont collées. C'est-à-dire, elles s'enchaînent très vite. Et par contre, quand on définit le silence, c'est un vrai silence. Bon, et celui-là, c'est pas des silences par hasard. Ceux que vous avez entendus ce soir, on les entendra demain et ils existaient hier. Mmh, ce sont toujours les mêmes. Voilà.
Et puis juste dernière chose, quand Israël Horovitz, je crois, dit c'est un drame, on n'invente pas un tel drame, il nous est imposé, trop déchirant pour ne pas être vrai. Et puis en même temps, il s'interroge dans 3 semaines, non ici, sur la vérité de ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, justement, par rapport à cette question vérité, mensonge, un drame qui est imposé, bigger than life?
Ouais, bah moi j'ai pas de réponse à ça, ouais. Je ne sais pas. Voilà, c'est un point d'interrogation, hein, ça reste un point d'interrogation. Je ne sais pas, moi, quand je vois cette femme et cette jeune femme, la mère et la fille qui vont faire ce pacte, elles enterrent quelque chose, qu'est-ce qu'elles vont en faire? La suite, je sais pas. Là, c'est bien là, c'est magnifique d'ailleurs, enfin c'est magnifique, on peut tous se poser ces questions-là, peut-être que chacun avec les gens qu'on aime, on signe des pactes comme ça. Peut-être qu'on les dit pas, mais en tout cas, on se tait des fois. Qu'est-ce que ça va générer? Voilà, c'est nos vies.
Merci beaucoup.